Donc je vous invite à trouver un verset qui est dans 2 Chroniques, 2 Chroniques chapitre 20. Chapitre 20, et nous allons lire le verset 20. Sur l'écran, vous voyez Josué 3 et 4, et vous allez comprendre pourquoi on va lire 2 Chroniques 20, verset 20. Les Lévites se levèrent de bon matin et sortirent vers le désert de Tekoa. Au moment où ils sortaient, Josaphat se tint debout et dit, « Écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis dans votre défense. Soyez fermes dans votre confiance en ses prophètes, et vous aurez du succès. » Confiance en Dieu, confiance dans ses prophètes. Josué était, en quelque sorte, un des grands prophètes du Seigneur. Maintenant, je vous invite à trouver Josué 3 et 4, que nous n'allons pas lire, mais je vous invite à trouver Josué 3 et 4, parce que le thème qui m'a été imposé pour ce matin, c'est Josué 3 et 4, la main de Dieu et la traversée du Jourdain. Josué 4. Je vous invite à trouver ces textes, mais nous n'allons pas les lire. Alors, Josué 3 et 4, ça fait 40 ans que Moïse est mort. Il n'est plus le chef du peuple d'Israël. Depuis peu, le nouveau chef s'appelle Josué. Le temps est arrivé d'entrer en terre promise. Il y a le Jourdain à traverser. Il n'y a pas de pont, il n'y a pas de tunnel, il n'y a pas de hovercraft ou de ferry. Traverser à la nage était impossible. Mais Dieu leur a dit, vous allez en terre promise. Et Dieu avait son plan, il avait son projet. Tout cela s'est passé le 10e jour du mois. On est quel date aujourd'hui? Ah tiens, que c'est curieux. Ça s'est passé le 10e jour du premier mois, Josué nous le dit, et nous sommes le 10e jour du 11e mois cette année. Alors, le problème, c'est qu'il fallait traverser le Jourdain. À l'époque, et Josué nous le dit, ça débordait. Ça inondait les côtés. C'était en crue. Et Dieu leur dit, traverser le Jourdain. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Eh bien, voilà, je vais vous montrer ce qu'il fallait faire. Il fallait d'abord que le peuple de Dieu écoute avec foi. Dieu leur parle au chapitre 3. Le chef parle au peuple et le chef dit, voilà ce que vous devez faire. Je vous fais un résumé de chapitre 3 et 4. Ensuite, Josué parle au peuple et dit, voici ce que vous devez faire, mais voici ce que Dieu va faire. Ensuite, Josué parle au prêtre, il dit, voici ce que vous devez faire. Ensuite, Dieu parle à Josué avec un message pour le peuple, et Dieu dit, voici ce que vous devez faire, mais voici ce que moi, je vais faire. Et pour terminer, chapitre 3, Josué parle de nouveau au peuple, il dit, voici ce que vous devez faire, et voici ce que Dieu va faire. Alors, ce petit résumé de chapitre 3 résume en quelque sorte la vie chrétienne. Parce qu'il y a des choses que nous devons faire, c'est notre responsabilité, et il y a des choses que Dieu seul va faire ou peut faire. Tout chrétien a des responsabilités, mais le Seigneur, il a son rôle à jouer. Écoutez avec foi. Ensuite, ça continue. La partie suivante, c'est agir.
par la foi. Il y a sacrificateur, il y a sec, et il y a suivre. Les sacrificateurs doivent entrer dans le fleuve. Quand ils arrivent, le fleuve s'arrête. Le peuple traverse sur un lit de fleuve qui est complètement sec, pas d'eau, complètement sec, mais Dieu dit, vous devez suivre les sacrificateurs. Alors c'est une chose de dire aux sacrificateurs, allez, vous traversez, vous y allez en premier. Mais c'est autre chose de suivre. Et le peuple devait oser se mouiller les pieds, sans se mouiller les pieds, parce que le lit était sec. Il devait oser suivre et s'engager comme Dieu leur a dit. Écouter avec foi, agir par la foi, et au chapitre 4, témoigner de sa foi. Une pierre et un pourquoi. Une personne de chaque tribu devait prendre une pierre et construire un petit monument. Et je lui dis, quand vos enfants ou vos petits-enfants vont vous dire, pourquoi y a-t-il un tas de pierres? Eh bien, vous allez répondre à vos enfants, c'est parce que Dieu nous a délivrés. Lorsque nous prenons la scène, quand nos enfants et nos petits-enfants nous disent, mais papa, maman, pourquoi vous prenez la scène? Eh bien, c'est parce que Dieu nous a délivrés. Il y a tout un message dans ce chapitre 4, où on peut témoigner de sa foi. Mais si vous voulez un deuxième résumé de la vie chrétienne, eh bien, il s'agit d'écouter avec foi ce que Dieu nous dit dans la parole. Il s'agit d'agir par la foi. Il s'agit de témoigner de sa foi. Ici, il s'agit bel et bien d'un miracle. Nous n'allons pas essayer de l'expliquer avec des arguments scientifiques ou soi-disant logiques ou autres. Il s'agit d'un miracle, ou on peut dire de plusieurs miracles. Le peuple, on ne sait pas exactement combien ils étaient, 1 million et demi, 3 millions peut-être, ils ont traversé le Jourdain. Et ici, il y a plusieurs miracles. Cela s'est passé exactement comme Dieu l'avait prédit. L'eau va s'arrêter, vous allez traverser. Le timing était parfait. Dès que les sacrificateurs ont mis leurs pieds dans l'eau, l'eau s'est arrêtée. Ensuite, l'eau était en crue. Ça débordait de partout. Mais Dieu a arrêté l'eau. Quatrième miracle, la durée était parfaite. Tout ce que Dieu fait d'ailleurs est parfait. La durée était parfaite. Une fois qu'ils avaient tous traversé, l'eau a recommencé à couler. Juste, quel coup de bol. Non, on ne peut pas le dire. Le timing de Dieu est toujours parfait. Ensuite, le lit était complètement sec. Ça, c'est aussi miraculeux. Hein? Quand la marée basse descend, le sable reste bien mouillé pendant un certain temps. Mais à ce moment-là, l'eau s'est arrêtée et le lit était sec. Le timing était parfait. Dès qu'ils avaient traversé, l'eau commence à couler. Et tout s'est passé comme Dieu l'avait prédit. Le miracle ou les miracles. Il y a plusieurs épisodes dans la parole de Dieu où il y a beaucoup de miracles. Et un des épisodes, c'est justement à l'époque de l'Exode et de l'entrée en terre promise. Le timing était parfait. Le temps était parfait. La traversée était parfaite, parce que le Tout-Puissant était derrière tout cela. Si vous connaissez la Bible, vous allez me dire, mais David, est-ce que je n'ai pas souvenu de quelqu'un d'autre qui a traversé le Jourdain de façon miraculeuse? Et bien sûr, vous avez raison. 4, 5 siècles plus tard, Élie et Élisée ont traversé le fleuve de façon miraculeuse, et Élisée a retraversé le fleuve seul, de façon miraculeuse, après le montée d'Élie auprès du Seigneur. Et bien sûr, ça nous rappelle ce qui s'était passé 40 ans avant cet épisode, dans le livre de l'Exode, la mer Rouge s'est ouverte. Encore des miracles. Le Jourdain, Est-ce que quelqu'un ici s'est baigné dans le Jourdain? C'est le rêve de beaucoup de gens d'aller en Israël et de se baigner déjà dans la mer morte et aussi dans le Jourdain, ou alors de se faire baptiser dans le Jourdain. Je connais quelques personnes qui l'ont fait. Mais le Jourdain est une rivière qui n'est pas très longue, qui n'est pas très large, mais qui est une des rivières ou un des fleuves les plus célèbres du monde. En partie à cause de ce qui se passe dans cette partie du monde aujourd'hui, et en partie parce que beaucoup de gens, même nos chrétiens, savent que dans la Bible, on parle de temps en temps, ou plutôt très souvent, surtout dans l'Ancien Testament, du Jourdain. D'ailleurs, bon nombre d'enfants de chrétiens et des enfants de non-chrétiens s'appellent Jordan ou Jordan, selon Jourdain en anglais ou en américain. Et d'ailleurs, il y a même, pour la petite histoire, il y avait un seigneur français du 11e, 12e siècle qui est parti aux croisés, qui avait un enfant, et il a décidé d'appeler son enfant, son fils, Jordan, ce qui est Jourdain en occitan à l'époque. Et ce seigneur habitait dans une ville qui s'appelait Lille, L-I-S-L-E, parce que c'était une petite ville entourée d'eau, et il a décidé de rebaptiser sa ville Lille Jourdain. Et c'est la seule ville en France qui s'appelle Jourdain, et ça se trouve dans le Gers. Bon, je ferme la parenthèse. Mais Dieu a fait ce miracle, le peuple était devant le Jourdain, et Dieu a permis qu'il traverse à pied sec. Un objet qui était avec eux était l'Arche de l'Alliance. On parle de l'Arche, je crois bien, 16 fois dans Josué 3 et 4. Soit c'est l'Arche de l'Alliance, soit c'est l'Arche de l'Éternel, soit c'est l'Arche tout court. On ne peut pas confondre, bien sûr, avec une autre Arche. Hein? Bon. L'Arche de l'Éternel. On ne sait pas exactement comment c'était, mais plusieurs personnes le décrivent de cette manière-là. Ce n'est pas très grand. Je crois que j'ai les dimensions. Voilà. 1,15 m de long, 70 de large, 70 de haut. Et à l'intérieur, il y avait les 10 commandements. Et cette arche devait être portée par le sacrificateur ou par des prêtres. Il y avait une façon de porter cette arche avec les barres. Et tout était en bois d'acacia, recouvert d'or. Cette arche était importante pour plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est que cette arche de l'Alliance symbolisait la présence de Dieu. Quand les sacrificateurs partaient avec l'arche, le peuple suivait. Quand les sacrificateurs s'arrêtaient, le peuple s'arrêtait. Et Dieu se manifestait dans le tabernacle, là où l'arche était placée dans le lieu très saint. L'arche de l'Éternel, qui a suivi le peuple pendant l'Exode. Quand le tabernacle était là, on mettait l'arche dans le tabernacle. Quand Salomon a construit son temple, on a mis l'arche dans le temple de Salomon. Et en l'an 586 avant Jésus-Christ, l'arche a disparu lorsque Nebuchadnezzar a envahi et détruit la ville de Jérusalem. Et je peux vous dire, et c'est un scoop pour l'Église sonnera ce matin, que même Indiana Jones n'a jamais retrouvé l'Arche de l'Alliance. Même lui. L'Arche symbolisait la présence de Dieu. Et pour le peuple de Dieu, être conscient de la présence de Dieu était quelque chose de vraiment fondamental. La main de Dieu et la traversée du Jourdain. Josué 4, 24. Josué dit, après tous ces miracles, c'est afin que tous les peuples connaissent que la main de l'Éternel est une main puissante. Et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. On peut dire, voilà un résumé du pourquoi de ce miracle.
C'est pour que, d'une part, tous sachent que Dieu a une main puissante, et d'autre part, que tous viennent adorer le Seigneur. Qu'est-ce qu'on a chanté tout à l'heure? Viens, peuple racheté, adorer celui qui vous a sauvé. Et lorsque Dieu agit dans notre vie, nous devons nous dire, mais Seigneur, ta main est une main puissante. Nous devons aussi venir nous mettre devant lui pour l'adorer et pour nous soumettre, pour dire, Seigneur, que ta main soit toujours avec moi. La main de l'Éternel. On va y penser pendant quelques minutes là. Il y a beaucoup de références à la main de Dieu dans la Bible. C'est étonnant. Et j'aimerais souligner trois exemples de ce que cette main signifie. D'abord, cette main de Dieu, ou les mains de Dieu, signifie ou symbolise sa protection. Dans le livre d'Esdras, dans le livre d'Néhémie, très souvent, nous lisons que Esdras et Néhémie étaient conscients que la main de Dieu était sur eux. Que des fois, Esdras dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Néhémie dit, la main de l'Éternel m'a fortifié. Même Esdras a osé dire à un roi païen et idolâtre, la main de l'Éternel, notre Dieu, fut sur moi. Il a témoigné de cette manière. Je me demande si j'allais voir le maire de notre commune et je lui disais, la main de l'Éternel est sur moi aujourd'hui, monsieur le maire. Il me dirait, attendez, je vais appeler l'hôpital psychiatrique. Mais c'était sa façon de témoigner. Et même si je ne le dis pas au monsieur le maire ou à qui que ce soit, je le sais. Et j'espère que vous le savez. La main de Dieu est sur ceux qui lui appartiennent. Ou on peut dire la main de Dieu est derrière ceux qui lui appartiennent. Ou la main de Dieu est avec ceux qui lui appartiennent. Nous sommes protégés par la main de Dieu. Et Jésus, dans Jean 10, il nous dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Je leur donne la vie éternelle. Personne ne les arrachera de ma main. Et personne ne les ravira de la main de mon Père. Dans la main du Christ, dans la main du Père, mais c'est la sécurité parfaite. Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes dans la main de Dieu? Que Dieu est là pour nous protéger. Il y a un vieux cantique qui dit, ma vie est dans tes mains. Il n'y a aucun endroit plus sûr que là. La main de Dieu est là pour nous protéger, pour nous délivrer. C'est ce que nous lisons dans Deutéronome 5, 15. Tu te souviendras que tu étais esclave dans le pays d'Égypte, mais que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir par sa main puissante. Il a délivré les gens de l'esclavage. Je crois que je l'ai déjà dit, mais c'était un des versets préférés de John Newton, qui était marchand d'esclaves, qui s'est converti, qui a composé Amazing Grace, Grâce merveilleuse, le beau cantique, et il était conscient que la main de Dieu l'avait délivré de l'esclavage, tout en étant marchand d'esclaves qu'il était. La main de Dieu nous délivre, nous protège. Mais la main de Dieu est aussi symbole d'autre chose. Pas seulement de la protection de Dieu, mais comme je disais tout à l'heure, de la présence de Dieu. Il y a Yabetz, un jeune homme qui avait un drôle de nom parce que Yabetz signifie pénible. Il ne faut jamais appeler votre enfant Yabetz. Pénible. Vous vous rendez compte, le jour de son mariage, il fait des vœux avec sa femme et le prêtre lui dit, le prêtre juif, lui dit, est-ce que pénible. Est-ce que tu promets de ne pas rendre la vie de ta femme pénible? Et puis, à sa femme, est-ce que tu promets d'aimer pénible toute ta vie? Quel nom! Il ne faut jamais appeler un enfant Jabez. En tout cas, j'ai pénible, ou plutôt Jabez, ça s'écrit de plusieurs manières différentes. Il a prié. Et sa prière, il dit tout simplement, il dit plusieurs choses, mais il dit, Seigneur, si tu me bénis, Seigneur, si ta main était sur moi, il ne devait pas avoir une vie facile à l'école, au collège, où tout le monde se moque de tout le monde, pour n'importe quelle raison. Mais pénible a mis sa confiance dans le Seigneur. Et il a dit, Seigneur,
je veux que ta main soit sur moi. Ézéchiel, loin de tous, loin de tout, dans un pays étranger, avec une langue étrangère, abandonné par tout le monde, il dit dans Ézéchiel, chapitre 1, verset 3, à côté de la rivière, c'est là que la main de l'Éternel fut sur moi. Abandonné de tous, prisonnier, et Dieu se révèle à lui, et Ézéchiel savait que la main de Dieu était sur lui. Il savait la présence de Dieu. Dans notre solitude, disons-nous bien, on ne sera jamais loin de la main de Dieu. On peut être loin de tout et de tous, mais jamais loin de la main de Dieu. Et la main de Dieu est aussi symbole de la patience de Dieu. Toute la journée, dit le Seigneur, j'ai tendu la main vers un peuple rebelle, désobéissant. Le lendemain, le Seigneur dit, Ésaïe 65, toute la journée, j'étends la main vers un peuple rebelle, désobéissant. Le Seigneur est un Dieu patient. Et nous avons lu justement, jeudi soir, Romains 2, verset 4, la patience de Dieu, c'est pour nous pousser à la repentance. Le Seigneur est patient avec des chrétiens, avec des non-chrétiens, avec des soi-disant chrétiens, avec des pseudo-chrétiens, avec des faux chrétiens, avec des vrais chrétiens. Le Seigneur est un Dieu patient. Et sa main symbolise sa patience. Il y a d'autres versets qui parlent de la main de Dieu, mais un jour, sa patience va arriver à son terme. Et des versets dans Amos, Michée, Sophonie, Zacharie et ailleurs nous disent que la main de Dieu sera son instrument de jugement. Il frappera les nations, il frappera les individus qui refusent de prendre la main de Dieu qui est tendue depuis des siècles, voire des millénaires. La main de Dieu, symbole de la protection de Dieu, de la présence de Dieu, de la patience de Dieu. Je conclue. Je dirais, c'est en quelque sorte le verset clé de ce ou de ces miracles dans Josué 3 et 4. C'est Josué qui le dit, approchez-vous ici et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Il fallait que le peuple se mette à l'écoute du Seigneur. C'est pour ça que nous avons lu dans 2 Chroniques 20, 20, écoutez Dieu, écoutez ses prophètes. Et Josué exhorte, il ordonne au peuple de venir écouter Dieu. Et quand on se met à son écoute, on peut voir des Jourdains s'ouvrir devant nous. On peut voir des mers rouges s'ouvrir devant nous. On peut voir des murailles de Jéricho disparaître devant nous. Si nous nous mettons à son écoute et si nous mettons toute notre confiance dans le Seigneur. Hier soir, il y a eu un match de rugby. J'imagine que personne ici ne le savait. Mais c'était le match de rugby, les Bleus contre les Blacks. France contre la Nouvelle-Zélande. Et au début de ce match, un des commentateurs, j'ai entendu parler bien sûr, et je suis trop spirituel pour regarder les matchs de rugby. Mais au début de ce match, d'ailleurs, si vous voulez tout ça, non, je ne vais pas vous dire que, non, j'allais dire une bêtise, c'est pas mon genre. Au début de ce match, un des commentateurs a dit, pour ce match, les Français ont besoin de trois choses. Courage, participer au combat et faire preuve de caractère. Alors j'ai été béni par le Seigneur en écoutant ça. Non pas à cause du match de rugby, mais parce que je me dis, mais quelle prédication pour un dimanche matin. Si on avait dit Fabien Galtier ici dimanche prochain, on lui demanderait de prêcher sur le besoin du chrétien d'avoir du courage. D'admettre qu'il y a un combat et que grâce au Christ, on peut avoir du caractère. Non pas un caractère de cochon, Il y a trop de chrétiens avec un caractère de cochon, même si les cochons sont très gentils. J'ai connu dans le temps un éleveur de cochons qui me dit, David, c'est un mensonge de dire qu'un caractère de cochon, c'est terrible. Ils sont gentils, les cochons. Certes, sales, mais gentils. Alors pourquoi est-ce que je dis tout ça? C'est parce que nous, les chrétiens, dans notre vie de tous les jours, nous avons des difficultés. Nous avons des défis au quotidien, que ce soit au niveau de la famille, de la santé, du travail ou du manque de travail, de l'argent. Et que sais-je encore? Dans nos difficultés, dans nos défis, nous devons faire preuve de courage. Mais le courage vient de notre confiance dans le Seigneur. Le Seigneur, il nous tend sa main. Il veut ouvrir nos Jourdains. Il veut abattre nos murailles de Jéricho. Mais il nous demande de venir nous mettre à son écoute. Il nous demande de venir nous confier en lui. Dieu, il est le Dieu de l'inattendu. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de l'invisible. Mais il nous demande de venir attendre. Il nous demande de venir nous attendre à lui. Il nous demande de venir agir quand le feu devient un feu vert. Quand le feu est rouge, attendons. Quand le feu est vert, agissons. Le peuple de Dieu, ils ont dû écouter avec foi, agir par la foi. Et tout chrétien au XXIe siècle doit faire exactement pareil. Devant nos difficultés, devant nos défis, devant nos obstacles, et parfois nous avons des gros obstacles devant nous, des grosses difficultés dans notre vie. Le Seigneur nous demande de lui faire confiance et de nous laisser inspirer et encourager par tant d'exemples bibliques où les gens étaient devant un mur et Dieu a abattu le mur. Devant la mer Rouge, devant le peuple qui râlait, qui rouspétait, Moïse a dit tout simplement, Exode 14, 14, « L'Éternel combattra pour vous, mais vous, bouclez-la. » Il a dit ça, mais il a dit, « Mais vous, gardez le silence. » Dans nos combats, n'oublions pas, l'Éternel combat pour nous, avec nous. Sa main est sur nous, devant nous, derrière nous, avec nous. Gardons le silence. Faisons confiance. Prions. Seigneur, merci car toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. Merci Seigneur car tu as permis au peuple, malgré la peur et quelques doutes j'imagine, tu leur as permis de traverser à pied sec ce fleuve. Et merci Seigneur car tu veux nous aider aussi à traverser le fleuve devant nous. Tu vois Seigneur ce qui nous attend cette semaine, ce qui est prévu et imprévu. Mais aide-nous Seigneur à te faire confiance. Aide-nous à lire ta parole, à écouter ta parole, à être instruit par elle. Et aide-nous à toujours savoir que ta main est sur nous, avec nous, et que ta main est une main puissante. Nous te bénissons pour cela. Amen.